dans l'évangile de Matthieu. Et on va l'afficher. Et je l'ai volontairement mis sans les numéros de versets, ni les petites coupures qu'on a d'habitude dans nos Bibles. C'est vrai qu'on a l'habitude de se référer aux versets, aux titres et ainsi de suite. Mais initialement, ça n'existait pas. Ça a été rajouté par la suite. Et j'aimerais vous inviter à lire simplement, à suivre sur l'écran, pour ceux qui le voient assez bien, avec l'idée de se dire que le texte qu'on va lire ce matin, c'est un tout. D'habitude, dans nos Bibles, il est plutôt coupé en deux, trois parties, avec des petits titres de chapitres ou de passages. Et c'est vrai qu'on pourrait faire plusieurs messages sur le texte qu'on va lire, bien séparé, mais en fait, si on regarde l'ensemble, il me semble que ça forme un tout, qu'il y a une idée derrière l'ensemble de ce qu'on va lire ce matin. Donc je vous invite à suivre, soit dans vos Bibles, si vous préférez, soit sur l'écran, la lecture de ce texte, Matthieu 19, à partir du verset 13 jusqu'à 20, verset 16. Matthieu 19, verset 13 jusqu'à 20, 16. Alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux et partit de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. « Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre prit alors la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, bien des derniers seront les premiers. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez-vous aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Je vais juste arrêter les petits trucs là qui font boum boum derrière. Je sais pas si ça vous dérange, moi oui. Ah ben ça marche pas quand même. Ah ben ça a coupé le ventilo, désolé. Un long texte donc ce matin. Mais qui pour moi veut dire à peu près la même chose tout le long. Alors on va suivre ce texte ensemble. Et puis, comme dit, on fera une petite pause à un moment avec un ou deux chants. Et on prendra la suite. Ce texte est à peu près le même chez Marc et Luc, avec le même suivi. Que nous dit Jésus en introduction ? Que se passe-t-il juste avant cette rencontre avec ce jeune homme riche ? Laissez venir à moi les petits-enfants. Des gens arrivent et amènent des enfants à Jésus. Les disciples, pensant bien faire, leur disent « Non, non, mais allez-vous-en, là, il ne faut pas déranger le maître. » Et le maître n'est pas dérangé. « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Le royaume des cieux est pour ceux qui viennent à Jésus avec un cœur humble et pur, innocent, avec toute l'innocence de l'enfant, ouvert à ce que Jésus peut leur apporter. Quand on envoie un enfant voir quelqu'un, il ne se pose pas trop de questions, en général il y va. Si ses parents lui font confiance, enfin s'il fait confiance à ses parents, pardon, et qu'il, voilà, vous envoyez votre enfant, vous dire « va voir ce monsieur là-bas ». En général, le petit va y aller et puis il va se dire « tiens, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça va être chouette !» C'est un peu ça que Jésus est en train de nous dire. « Laissez venir à moi les enfants », c'est avec cette innocence, avec ce cœur pur, avec cette simplicité, ouvert à ce qui va se passer. Et puis juste après, il y a un jeune homme qui arrive, avec l'état d'esprit complètement à l'opposé de ce que Jésus vient de dire. Complètement à l'opposé de cette compréhension des choses. Il vient avec plein de certitudes. On connaît assez bien ce passage du jeune homme riche. On ne va pas beaucoup s'étendre dessus, mais on va relever quelques points. Premièrement, il ne reconnaît pas en Christ le Messie. Il ne sait, voilà, pour lui, il arrive, il va voir un maître spirituel, un rabbin, au-dessus de la norme, réputé, que tout le monde connaît, tout le monde va le voir, rempli de sagesse, mais qui est-ce qui va voir vraiment ? Juste un rabbin. Il n'a aucune idée de qui est vraiment Jésus. Et il arrive avec cette magnifique phrase, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Que dois-je faire de bon ?» Et Jésus, il le tacle tout de suite. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Oups. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Il est en train de lui dire, si tu m'appelles bon, c'est que tu crois que je suis Dieu. C'est que tu as reconnu que je suis le Messie. Sinon, ce que tu dis, c'est que de la flatterie. Et c'était courant à cette époque. Hein. Les maîtres spirituels, les rabbins, ils aimaient bien se faire flatter. Pas qu'à cette époque, hein, aujourd'hui aussi. Les grands enseignants, les professeurs de faculté, si vous oubliez de dire « Monsieur le professeur », il ne va pas vous répondre. À l'époque, j'ai travaillé dans un hôtel prestigieux à Montreux. Et si on ne disait pas au directeur « Monsieur le directeur général », il ne vous regardait même pas. « Bonjour, monsieur le directeur général !» Ah, tu as reconnu mon titre. C'était l'état d'esprit des rabbins. C'est pour ça que ce jeune homme, il arrive dans cet état d'esprit-là. Et que fait Jésus là ? Il leur met un petit peu... Il recadre, il dit « Non, non, attends, on va se calmer, là, on remet les choses dans leur contexte. » Et il évacue cette flatterie. Deuxième problème, sa conception du salut. Sa conception de gagner la vie éternelle. Que dois-je faire de bon pour ? Quelles bonnes œuvres ? Quelles bonnes choses ? Et c'est normal. Quelque part, à cette époque-là, il n'y a que ça pour gagner son salut. Au travers du prisme de la loi, au travers de la culture, il n'y a que ça qui est connu. Jésus n'est pas encore monté sur la croix. Mais là, lui, il vient avec « Ok, alors, est-ce que j'ai bien coché toutes les cases pour avoir la vie éternelle et être tranquille ?» C'est un petit peu ça l'idée. Quels sont les commandements que je dois suivre pour être certain ? En fait, il vient plein de certitudes et il veut juste que Jésus confirme ses certitudes. Et dans toutes les religions du monde, c'est comme ça. Il n'y a que dans le christianisme où il y a un salut qui se passe autrement que par les œuvres. Vous pouvez y chercher sur toute la planète. Il n'y a aucune autre religion, il n'y a aucune autre croyance que le christianisme au travers duquel on puisse atteindre Dieu, non par les œuvres, mais par le salut, par la grâce. Toutes les religions de la planète, c'est on fait plein de bonnes œuvres pour essayer d'atteindre un hypothétique salut, ou une réincarnation, un peu meilleure que celle d'aujourd'hui, ou je ne sais quoi d'autre. Le problème du jeune homme, c'est qu'il a une fausse interprétation de la loi également. Non seulement il arrive avec son contexte, il n'a pas d'autre choix, mais en plus, il arrive avec une fausse interprétation de la loi, ou compréhension de la loi. Suis les commandements. Tu dois suivre les commandements. Et qu'est-ce qu'il dit ? Lesquels ? Lesquels ? Ben oui, il y en a 613. Est-ce que je dois les suivre tous ? Oups. Lesquels ? Donc, encore une fois, comme tous les gens de son époque, il fait du tri. Et selon les écoles rabbiniques que vous suiviez, selon le maître spirituel que vous aviez, il y avait certains, alors les bases sûrement étaient les mêmes, mais selon le rabbin que vous suiviez, eh bien, il y avait des variations dans les commandements qu'il fallait suivre pour gagner le salut. Et ça, c'est encore aujourd'hui le cas, hein. Même dans certaines églises évangéliques. Il faut suivre certaines règles pour être sûr de ne pas tomber à côté du sujet. Être bien dans le cadre. Donc la réponse logique à cette question, pour moi, pour calmer le gaillard, ça aurait été, ben tous, hein, faut tous les suivre. Oups. Tous, 613. Mission impossible. Mission impossible. Ou alors, on lui aurait fait un beau discours sur la morale et sur comment il faut bien être pour bien suivre la loi. Mais que fait Jésus ? Ben, il ne fait pas ça. Il va un pas de plus dans le sens de ce jeune homme. Il lui dit, ben voilà, il en sort six commandements à suivre. Il te suffit de suivre ça. Puis c'est des commandements. 5 sur les 6 sont dans l'étape de la loi. Font partie des 10 commandements. Il reçoit cette réponse, puis en même temps, il doit se dire, mais il y a un truc qui cloche. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit, ce jeune homme, quand il entend ces 6 commandements énoncés ? C'est des trucs simples. C'est trop facile. Mais tu ne commettras pas de meurtre. Bon, ben ça, facile. Pas d'adultère. Ça, un peu plus compliqué parfois, mais quand même, c'est jouable. Pas de vol. Bon, normalement, un rabbin assez riche, un jeune homme assez riche, pas de problème. Pas de faux témoignages. Là aussi, c'est des fois un peu plus compliqué. Honore ton père et ta mère. Parfois aussi un peu compliqué, mais jouable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ce jeune homme, il a l'air super déçu par la réponse de Jésus. Il a l'air super déçu. Et en plus, il est un petit peu orgueilleux. Mais j'ai suivi ça dès ma jeunesse. Trop facile. Ça ne peut pas être que ça. Je les ai tous suivis dès ma jeunesse, ces commandements. Et il se rend compte qu'il y a quand même un problème. Que me manque-t-il encore ? Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Ça ne peut pas être aussi simple. Il prend quand même conscience que juste suivre ces 6 commandements sur les 613, ça ne peut pas être aussi simple. Donc on peut penser qu'il y a un début de prise de conscience chez ce jeune homme que sa conception des choses, elle n'est pas tout à fait juste. Et puis, il y a cette réponse de Jésus où là, il va enfoncer le clou et ça va être le coup de poignard pour ce pauvre jeune homme riche. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ah là, il touche où ça fait mal, il touche au porte-monnaie. Comme souvent, hein, comme pour beaucoup d'entre nous. Quand ça touche au porte-monnaie et au bien, ah, on aime moins. Hein. Faire des trucs simples, ça on est capable. Suivre des commandements, honorer ses parents, ne pas commettre de meurtre, bon ça c'est assez simple. Mais vendre tout ce qu'on possède et le donner aux pauvres et suivre Jésus, ouch, ça pique. C'est plus compliqué. Mais qu'est-ce que ça montre en fait ? Simplement, où est le cœur de ce jeune homme ? Dans un autre passage, Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il lui démontre ainsi que tout son trésor, c'est dans ses biens matériels, dans son confort social, dans ses richesses. Et qu'en fait, dans ce dialogue avec Jésus, ce qu'il ne cherche, c'est pas Dieu. Ce qu'il cherche, c'est pas Dieu. C'est pas le salut. C'est être conforté dans sa petite vie bien tranquille et surtout que rien ne change. Parce qu'au début de cette discussion entre ce jeune homme et Jésus, c'est ça. Ce jeune homme, il vient avec une certaine idée du salut. Et surtout, il vient quelque part pour... voilà, je vais voir le maître, là, comme ça, je vais pouvoir cocher toutes les cases, rentrer chez moi et dire « Ah, purée, je suis quelqu'un de bien quand même. » Et puis c'est exactement l'inverse qui lui arrive, le pauvre. Alors, il s'en va tout déçu, parce qu'il tient tellement à ses richesses, et il se rend compte qu'en fait, il se tient plus à ses richesses et à son statut social qu'au salut à proprement parler. Le plus important pour lui, c'est ses biens matériels. Et il n'a aucune idée de ce qu'il pourrait recevoir en suivant Jésus. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Laisse tout. Et ça, Jésus, il le dit pas seulement à ce jeune homme riche. Hein. Des fois, on n'a pas grand-chose et on y tient plus que quelqu'un qui a beaucoup de richesses. On s'accroche à nos biens. C'est un pas de foi immense de tout lâcher pour suivre Jésus. Ceux qui sont missionnaires, parmi nous le savent, ou qui ont été missionnaires, faire ce pas de foi, de dire « Ok, je quitte mon pays, je quitte tout ce que j'ai et je vais vers l'inconnu. » Parce que c'est ce qu'il est en train de lui demander. Hein. Je me rappelle que quand je suis parti comme stagiaire, pasteur, il y a quelques années de ça, il y a un bout de temps déjà quand même, je viens d'une famille assez pauvre à la base. Et puis on a appris à gagner un peu des sous, à mettre de côté, puis on s'accrochait un petit peu à... Hein, tout ce qu'on a, on l'a gagné. On était assez fiers de ça dans la famille. On ne doit rien à personne. Puis voilà que je pars en stage et que je deviens dépendant des dons qu'on me fait. Eh bien, j'ai dû ravaler mon orgueil. Hein. J'ai dû ravaler mon orgueil et dire, ok, je suis obligé de dépendre des autres pour aller de l'avant. De dépendre uniquement de ce que les autres voudront bien me donner et de ce que Jésus va pourvoir pour moi. C'est énorme comme pas de... pour n'importe qui, et encore plus pour ce jeune homme qui se confie dans ses richesses. Et c'est d'autant plus fort que, à ce moment-là, Jésus est en chemin pour la croix. Il est en chemin pour Jérusalem, pour la croix. On va faire une petite pause, on va chanter deux chants, on peut se lever pour chanter ces deux chants, et puis on va prendre la suite après. Deux chants qui nous parlent de confiance. Ah, s'il y a des enfants qui... Ok, alors, comme il n'y avait personne au début, j'ai demandé, je ne savais pas. Mais les enfants, donc c'est Blaise qui s'en occupe. Blaise, il écoutera la deuxième partie en enregistrement. Voilà, vous pouvez suivre Blaise, aller au sous-sol. Ouais, vous m'avez déjà entendu assez longtemps, hein. Pas exagéré non plus. Voilà, Blaise et Rina, merci en tout cas. Deux chants donc qui parlent de confiance et de repos en Jésus. Me faut-il autre chose? C'est un peu la question qui va suivre pour les disciples. La question un peu difficile. Puisque suite à ce moment avec ce jeune homme riche, que leur dit Jésus? Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » C'est intéressant ce passage parce que ça nous montre aussi l'état d'esprit des disciples. À l'époque, être riche, c'était égal à être béni de Dieu. Et dans beaucoup de cultures, aujourd'hui encore, c'est comme ça. Si on a des richesses, si on a des biens, si on a une fortune, ça veut dire que Dieu nous bénit et agrée ce que l'on fait. C'était logique, c'était systématique. Et si on était pauvre et misérable, c'est qu'on avait dû faire quelque chose de mal. C'était la punition de Dieu. Donc c'est choquant pour eux ce qu'ils entendent de la part de Jésus. Et eux qui sont pauvres, ils se disent, mais si nous, on a, nous qui n'avons rien, comment on va faire? Plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Waouh! Alors, sur ce texte, il y a certaines interprétations un peu bizarres, un peu farfelues. On dit qu'à l'époque, dans les villes, il y avait des grandes portes, puis il y avait une plus petite porte. Et puis, les chameaux qui arrivaient, on appelait ça le chat de l'aiguille. Et il fallait enlever tout ce qu'il y avait sur le chameau pour qu'il puisse passer à quatre pattes. Alors ça, c'est des interprétations pour se rassurer qu'on peut quand même rentrer dans le royaume de Dieu. Par un autre moyen, il faut se dépouiller, puis après on rentre. Mais à mon avis, c'est un peu erroné comme interprétation. Parce que ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas parce qu'on s'est dépouillé, ce n'est pas parce que nous, on a fait quelque chose. Et c'est ce que Jésus va leur expliquer plus tard. Et pourquoi c'est super difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? On vient de le voir. Parce que le cœur de la personne, elle est attachée à sa réussite, à ses biens, à ce qu'il a, à ses compétences. Et quand on est attaché à tout cela, ou qu'on est fier de sa réussite, ou qu'on se dit, ben, moi j'ai réussi, parce que j'ai une position dans la société, parce que je suis directeur de ceci ou cela, alors on ne s'appuie plus sur Dieu, on s'appuie sur nos propres forces, sur nos compétences, sur ce que moi je suis capable de faire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre société, il y a un truc très très bizarre. Quand tout va bien, c'est moi qui l'ai fait. Et quand tout va mal, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Vous avez déjà remarqué ça? C'est flagrant, hein? Quand tout va bien, c'est mes compétences. Quand tout va mal, c'est la faute à Dieu. Un jour, j'ai une dame qui m'a dit, « Si vous saviez tout ce que Dieu m'a fait !» J'ai dit, « Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a fait ?» Et elle a commencé à me raconter toutes ses plaintes, toutes ses misères, qui n'étaient pas si grandes que ça, mais pour elle, c'était des catastrophes. Et tout ça, ça venait de la faute de Dieu. Et une fois qu'elle a eu fini de se plaindre, je lui ai dit, « Et vous, vous avez fait quoi pour Dieu ?» Elle me dit, un peu gênée, « Ben, pas grand-chose. » Il dit, alors pourquoi vous voulez qu'il s'occupe de vous? C'est un peu choc, hein, mais ça a été efficace, elle a compris. C'est tellement facile de s'en prendre à Dieu, alors qu'on ne le laisse pas faire dans nos vies, alors qu'on ne lui laisse pas la première place. Et les disciples, ils s'inquiètent. Que va-t-il advenir de nous, nous qui avons tout laissé pour te suivre? Nous, on a fait ce que tu as demandé au jeune homme riche, nous, on l'a fait. On est parti, hein, et si on se rappelle de l'appel de ses disciples, ils étaient en train de pêcher pour certains, « Toi, viens, suis-moi. » Hop, il largue tout, et il suit Jésus. Waouh! Un petit coup de folie, hein. Bon, ça vient de Pierre, c'est pas étonnant, Pierre, il est un peu fougueux, il fonce, puis après il réfléchit. Mais quand même, faut le faire. Et c'est sûr que Pierre, dans sa question, qu'il pose en fait pour tous les autres disciples, hein, « Que va-t-il advenir de nous ?» il a dans la tête ce qui vient de se passer avec ce jeune homme riche. Mais nous, on a tout largué, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Il y aurait deux choses essentielles, je pense, à retenir de la réponse de Jésus. Premièrement, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire à la fin des temps, quand Jésus viendra dans son règne, qu'il aura établi son royaume. À ce moment-là, les disciples auront chacun un trône pour diriger une tribu d'Israël et juger une tribu d'Israël. C'est probablement ce que les disciples espéraient, une belle récompense, mais l'autre chose probable, c'est qu'ils n'ont aucune idée que ça va être dans très 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 longtemps. Eux, ils voient le royaume de Dieu s'établir là, maintenant. Ils suivent Jésus pour ça. C'est le Messie, c'est celui qui va remettre en place Israël, maintenant. Mais ils n'ont aucune idée que cette promesse qui est faite là, c'est pour des temps lointains. Au rétablissement de toute chose, quand tout sera à nouveau parfait, selon la volonté de Dieu. Et il ne parle pas ici, Jésus, que des 12. Tous ceux qui le suivent, qui quittent tout ce qu'ils ont, auront une récompense bien supérieure dans le royaume. Alors, ça ne veut pas dire que pour suivre Jésus, on doit tout larguer maintenant. Il y en a qui le font. Mais ça ne veut pas dire ça non plus. Il ne faut pas tout d'un coup, vous sortez d'ici, vous allez chez vous, vous vendez tout, et puis... Non. Mais dans votre cœur. Dans votre cœur. Est-ce que vous êtes prêt à tout lui laisser? Est-ce que vous êtes prêt à lui laisser la direction de votre vie? C'est ça qu'il est en train de dire. Quitter son père et sa mère. Quitter ses enfants. Quitter... Mettre Jésus à la première place. Mettre Jésus au centre. Même si parfois ça fait qu'on quitte nos familles. Quand on devient chrétien, ça peut créer des conflits dans les familles. Moi, mon père était sûr que j'allais devenir curé quand je suis devenu chrétien. Ma mère, elle était choquée. Elle m'a dit, mais tu renies ce qu'on a fait pour toi, enfant. Le baptême, je viens d'une famille protestante. C'était un choc, il ne comprenait pas. Et encore, moi je vis dans un monde facile. Tous les musulmans qui se convertissent, tous ceux qui quittent vraiment, parce qu'ils n'ont pas le choix. Avec Nathalie, on a vécu au Laos, dans les familles animistes qui croient aux esprits, les gens se font chasser de leur village, avec ce qu'ils ont sur eux. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que... Dans leur tribu, dans leur village, ils perturbent la paix des esprits. Ils ne peuvent pas rester là. Et on les éjecte. Alors, il y en a qui payent un prix fort. Mais pour nous, aujourd'hui, ici, reconnaissons les choses auxquelles on est attaché. Est-ce qu'on est vraiment prêt à tout laisser à Christ, sans pour autant partir à l'autre bout du monde? La deuxième chose à retenir, c'est, contrairement à ce que certains mettent en avant, les promesses de recevoir au centuple, ce n'est pas forcément pour aujourd'hui et maintenant. Il y a pas mal de mouvements, entre autres dans la théologie de la prospérité, on appelle ça comme ça, certains prédicateurs qui vous disent que on peut mettre le ciel sur la terre. Moi, j'ai lu un livre de Bill Johnson, je ne sais pas si vous connaissez ce pasteur aux États-Unis, des églises Bethel Church. Lui, il dit que tout ce qui nous est promis au ciel dans le futur, on peut l'avoir aujourd'hui sur terre. Et pour ça, je peux vous assurer qu'il tord énormément les Écritures. Et qui fait vraiment rentrer les Écritures dans ce que lui, il a envie de dire. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a plein qui pensent que parce qu'on est chrétien, alors c'est bénédiction au centuple. C'est pour aujourd'hui et maintenant. C'est pour vivre dans le confort, la sérénité. qu'on ne doit pas avoir de maladie, qu'on doit être bien, et ainsi de suite. Ben, je suis désolé de vous apprendre que c'est faux. C'est faux, tout simplement. Ce n'est pas ça que Jésus nous promet. D'ailleurs, si vous prenez le texte parallèle dans Marc, il dit que non seulement il y aura tout ça, mais il y aura aussi des persécutions. Marc rajoute qu'il y aura des persécutions. Et si vous prenez le livre des Actes, hein, les Actes des apôtres, est-ce qu'ils ont vécu dans la paix et la sérénité? Pas tellement, hein. Mort crucifié, lapidé. Oh, lapidé. Les promesses, elles sont pour le futur, pour l'éternité. Elles ne sont pas pour aujourd'hui et maintenant. Il ne faut pas se tromper. Jésus n'a jamais promis qu'on serait dans la paix. Et d'ailleurs, si vous prenez l'état d'esprit de Paul, pour lui, la vie normale du chrétien, c'était la persécution. La vie normale du chrétien, pour l'apôtre Paul, c'était la persécution. Lisez les Actes, lisez ce qu'il a écrit, c'est assez flagrant. Et si je mets l'accent là-dessus, c'est que c'est tellement facile de se perdre. C'est tellement facile de se dire, allez, moi je... Mais bien sûr, on a tous envie de richesse. On a tous envie de ne pas avoir de maladie. D'être bien dans notre corps, dans notre peau, de... Bien sûr. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous promet. La richesse qu'il nous donne, elle est dans notre cœur. Elle est l'assurance du salut. C'est la seule et unique richesse qui est la même pour tous. C'est l'assurance d'être sauvé quand on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et de vivre pour l'éternité avec lui. C'est la seule chose qui est vraiment importante. Et si on a ça dans notre cœur, et si on s'y attache, alors tout ce qui va nous arriver peut être vécu plus facilement, si je peux dire ça comme ça. Mais Jésus, il connaît le cœur de ses disciples, qui doivent être en train de cogiter, en train de se dire, « Waouh, alors on va pouvoir diriger les tribus d'Israël et les juger. Trop bien. Et puis on va recevoir au centuple. Waouh !» Et Jésus, il rajoute un petit truc, une parabole. Une parabole qu'on connaît assez bien, hein. Celle des ouvriers de la dernière heure, on appelle ça. Un propriétaire de vigne va chercher des ouvriers, les premiers à peu près à 6 heures du matin. Il discute avec eux, il convient d'un salaire, une pièce d'argent par jour. Et puis, il les envoie travailler. Premier groupe. Deuxième groupe, environ 3 heures plus tard. Il va les trouver sur la place publique, là où les gens attendaient, hein, on faisait comme ça à l'époque. C'est encore aujourd'hui dans des pays comme ça, où quand on attend de pouvoir se faire embaucher, ben on va sur la place publique, puis on attend qu'un patron vienne et nous embauche. Et là, ben à 9h du mat', ils sont là, ils attendent. Et le patron, il arrive, il dit, ok, allez dans ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. Pas de question de salaire, là, pas de question de négociation. Et puis, pour les groupes 3, 4, 5 de la parabole, donc jusqu'à ceux de 17h, pareil. Il sort, il leur dit, allez travailler. Il ne leur parle même pas de salaire, là. Allez travailler dans ma vigne. Et le texte précise que ce n'est pas parce qu'ils sont fainéants qu'ils sont là, c'est juste qu'ils n'ont pas été embauchés. Ils n'ont juste pas été embauchés. Donc, ben, ce propriétaire semble assez généreux déjà rien que là. Parce que même à 17h, il va embaucher des gens alors qu'il sait très bien qu'il ne reste qu'une heure de travail avant le coucher du soleil. Et le soir venu, c'est l'heure du salaire, l'heure de la paye. Et il fait l'inverse de ce qui est normalement, qu'il prend les derniers arrivés pour les payer en premier. Et surprise, il leur donne le même salaire à ceux de 17h qu'à ceux de 6h du mat. Joie pour certains, grincement de dents pour les autres. Quelle injustice à vue humaine. Quelle injustice. D'ailleurs, ils le font remarquer. Mais attends, nous, on a bossé toute la journée. On s'est pris le soleil, on a eu chaud et tout. Et on a la même chose. Mais c'est une injustice énorme. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Réponse du propriétaire, mais est-ce que j'ai pas le droit d'être généreux ? De faire ce que je veux de mes biens ? Qu'est-ce que nous dit cette parabole en fait ? Que Dieu est souverain dans sa manière d'agir. Et sa justice n'est pas la nôtre. Sa justice n'est pas la nôtre. Notre vision de la justice, c'est que ceux qui étaient là en premier devraient être payés beaucoup plus que ceux qui étaient là en dernier. Sauf qu'ils ont convenu d'un salaire. Les autres, ils ont juste été sans convenir de salaire. Que les récompenses ne sont pas toujours celles que l'on croit. Et que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui déterminent notre salaire. Ce n'est pas parce qu'on en a fait plus que les autres qu'on est accepté dans le royaume. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous permettent d'entrer dans le royaume. Que si Dieu changeait le salaire en fonction de l'heure d'arrivée dans son royaume, là, il serait injuste. Ce propriétaire, ben, il décide que non, il met le même salaire pour tout le monde, parce que voilà, tout le monde va travailler pour lui. Et pour moi, c'est vraiment, si on met ça en parallèle avec le royaume de Dieu, c'est aussi ça. C'est pas parce qu'il y en a qui se sont convertis très tôt qu'ils auront un meilleur salaire que ceux qui sont convertis plus tard ou juste sur leur lit de mort. Le salaire est le même pour tous. Le salut. Un seul salut. Pas par les œuvres, mais par la grâce. Sinon, dans quel état d'esprit est-ce qu'on serait vis-à-vis de Dieu ? Ben, il suffit de regarder les religions du monde. Hein. Ayant vécu en pays bouddhiste, toutes les bonnes œuvres qu'il faut faire pour avoir une meilleure réincarnation, surtout les femmes, hein, désolé mesdames, mais les femmes doivent en faire deux fois plus. Mais c'est des bonnes œuvres. Et on n'est jamais sûr du résultat. Là, le salaire est le même pour tous. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure. Converti très jeune ou converti à la dernière minute. Un seul salaire pour tous. La vie éternelle en Christ. Et puis si on travaillait pour le salaire, pour le Seigneur, mais quel état d'esprit on aurait les uns vis-à-vis des autres ? Esprit de jugement, esprit de regard sur les autres. Ah, t'as vu, lui, c'est un bon missionnaire. Lui. Là, j'en vois deux, trois dans la salle. C'est des super missionnaires. Eux, c'est vraiment, ils vont être au top au paradis. Toi, t'as pas négocié le salaire avant de partir ? Tu t'es cassé. Ça serait terrible de vivre comme ça. Donc, au travers de cette parabole, Jésus, il est en train de leur mettre une leçon d'humilité aux disciples. Il est en train de leur dire, mais oui, vous m'avez suivi, oui, vous avez marché avec moi, mais attention. Attention, n'ayez pas les chevilles qui enflent. N'ayez pas de prétention au-delà de nécessaire. Parce que vous allez traiter la même chose que tous les autres. Le salaire, c'est le salut pour tous. Ni plus, ni moins. Et donc, si on prend un peu de recul avec l'ensemble de ce qu'on a vu ce matin, ben, je ne sais pas si vous voyez comme moi cette cohérence entre le début de notre texte, la simplicité des petits-enfants pour s'approcher de Jésus, et cette parabole qui nous dit « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Alors, mes chers amis, qu'on puisse être conscient de cela, chaque jour, chacun, sans avoir de prétention plus que nécessaire vis-à-vis de Dieu. Rester humble dans notre service et surtout continuer à servir. Que celui qui veut être grand dans le royaume soit le plus petit. Que quand on voit un frère servir, on soit encouragé et pas jaloux. Quand on voit un frère qui sait bien faire ceci ou cela, un bon évangéliste, un bon prédicateur, qu'on n'ait pas de la jalousie, mais de la joie, dire « Waouh, Seigneur, tu utilises cet homme pour ton royaume, quelle grâce !» Encourager les uns les autres qui ont des dons que nous, on n'a pas. Parce que tout ça, ça fait grandir le royaume et ça nous édifie les uns les autres. Et c'est Dieu qui donne à chacun la tâche qu'il veut lui confier. Alors qu'on puisse vraiment se rappeler de cela, rester humble et se dire, ok, quel que soit mon service, grand ou petit, je le fais pour Dieu, sans regarder aux autres, juste être serviteur, sans me glorifier vis-à-vis des autres, en ayant cette simplicité de cœur des enfants. Je vous invite à chanter un chant, maintenant, qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous, en introduction au moment de Sainte-Cène. Mon Dieu, par quel amour ? Et c'est ça, en fait, la conclusion de ce passage. Dieu, dans son amour, a payé un si grand prix. On peut se lever pour ce chant.